Bienvenue sur France Culture, il est midi 31. Tout de suite, c'est le journal. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La plus grave crise entre Rome et Paris depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est ainsi que la presse italienne qualifie le rappel de l'ambassadeur de France en Italie, une décision prise après une série de déclarations des responsables italiens jugées outrancières par Emmanuel Macron.
Et dans votre journal également, en Thaïlande, deux candidats pour un seul poste, la sœur aînée du roi défie la junte militaire pour devenir Premier ministre.
Peut-être une nouvelle affaire de chantage aux photos intimes, le directeur général d'Amazon Jeff Bezos accuse le propriétaire du tabloïd The National Enquirer de l'avoir menacé de publier des clichés compromettants. Une menace derrière laquelle plane l'ombre de Donald Trump.
Et puis nous sommes vendredi. L'invité Europe à la fin de ce journal sera Piotr Moszynski, correspondant à Paris d'un des plus grands quotidiens polonais, le plus grand, Gazeta Wyborcza. Nous évoquerons avec lui le sommet du groupe de Visegrad à Bratislava.
Midi 55, seconde partie de la grande table avec vous Olivia.
Ben nous, on va s'intéresser au corps d'Arnold Schwarzenegger. Corps très bien sculpté, mais au-delà de ça, corps très politique. Et c'est pas pour rien que ce grand acteur est aussi devenu gouverneur de Californie. Un documentaire lui est consacré, il sera diffusé ce week-end sur Arte. Nous recevons les deux réalisateurs dans la deuxième partie de la grande table.
À tout à l'heure. Cette fois, la coupe est pleine. Après des mois de tensions entre la France et l'Italie, la France a rappelé son ambassadeur en poste à Rome. C'est la visite surprise du vice-premier ministre italien Luigi Di Maio en France il y a 3 jours pour y apporter son soutien à des gilets jaunes qui a provoqué la colère de la France. Les tensions depuis des mois se cristallisent autour de la question des migrants essentiellement. Emmanuel Macron avait jugé la politique italienne cynique. Matteo Salvini l'accusait de ne pas respecter ses engagements. Le leader de la Ligue, lui aussi, qui soutient les 5 étoiles. Bref, le torchon brûle et le départ de l'ambassadeur démontre la gravité de la crise. Comment les Italiens réagissent-ils? Aperçu avec quelques réactions à Rome, au micro de Mathilde Imberti.
Roberto, commerçant romain, a vu comme tout le monde l'ouverture des journaux télé. Le rappel de l'ambassadeur de France, la brouille France-Italie décortiquée. De son point de vue, les électeurs 5 étoiles Paris à tort.
Franchement, ce qui se passe à la frontière franco-italienne, ça explique bien des choses. Macron a cherché à s'excuser, mais bon. Nos gouvernants sont anti-système, donc plus rien ne se passe comme avant.
La visite de Luigi Di Maio au Gilet jaune, qualifiée d'ingérence intolérable par Paris, la France en fait trop, selon ce retraité romain assis au soleil, le journal du jour à la main.
Il a choisi d'aller en France, c'était un choix personnel. Je ne voudrais pas forcer sur le patriotisme, mais la France exagère un peu.
Rappeler l'ambassadeur, cela renvoie à la guerre entre nos pays, 1940, se lamente Sandro, désolé du comportement du gouvernement italien.
Je suis consterné parce qu'on entretient historiquement des rapports d'amitié avec la France. Macron porte une part de responsabilité. Attention, mais nos dirigeants instrumentalisent les tensions. Et ça, c'est une erreur.
Les Romains convaincus que les deux pays finiront par se rabibocher. Ce midi pourtant, impossible de dire quand l'ambassadeur de France sera de retour.
En Thaïlande, il y aura au moins 2 candidats au poste de Premier ministre. Le chef de la junte militaire au pouvoir, ça c'était prévu. Mais aussi, et c'est plus inattendu, la sœur aînée du roi, la princesse Ubolratana. Une princesse rebelle donc, qui rebat les cartes d'un paysage politique verrouillé par les militaires depuis leur coup d'état de 2014, Omar Waman.
C'est une candidature qui rebat les cartes de la scène politique thaïlandaise totalement cadenassée par les militaires. Pour la première fois depuis 1932, année de la fin de la monarchie, un membre de la famille royale va participer aux élections législatives prévues le 24 mars prochain. Une surprise qui a fait l'effet d'une bombe, d'autant que Ubolratana Rajakanya ne cache pas ses ambitions. La sœur aînée du roi est également candidate au poste de chef du gouvernement, désignée par un parti politique proche de 2 anciens premiers ministres renversés par l'armée au pouvoir. La junte militaire, qui a son propre candidat en la personne de son chef, Prayut Chan-o-cha, et qui se retrouve donc en concurrence avec la princesse rebelle pour ce scrutin. Le premier, depuis 2011, qui s'annonce très mouvementé. Les militaires, à l'origine de la récente ouverture démocratique, après plusieurs coups d'État, ne comptent pas se laisser marginaliser par la sœur du roi qui n'a jamais fait de politique et dont la nomination au poste de Premier ministre verrouillerait le pouvoir au profit de la monarchie, ce que beaucoup de Thaïlandais redoutent.
Peut-être une nouvelle affaire de chantage aux photos intimes. C'est en tout cas ce qu'affirme Jeff Bezos, le directeur général d'Amazon, accuse le propriétaire du tabloïd The National Enquirer de l'avoir menacé de publier des clichés compromettants s'il ne déclarait pas publiquement que les articles de ce journal People le concernant n'avaient aucune visée politique. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour Antoine.
Derrière cette accusation de chantage, il y a l'ombre du président américain qui plane. En effet, The National Enquirer a longtemps entretenu des liens très étroits avec Donald Trump.
Oui, ce tabloïd appartient en effet au groupe Amai, connu pour avoir notamment acheté le silence d'une cover girl qui menaçait de révéler son aventure avec le futur président américain. Et alors en face, il y a donc Jeff Bezos, le patron d'Amazon, l'homme le plus riche du monde, le propriétaire du Washington Post, le grand quotidien américain, à l'origine, entre autres, des révélations sur les interférences russes dans la campagne de Donald Trump, de quoi effectivement en faire un ennemi personnel du président. Ce matin, coup de théâtre, Jeff Bezos publie l'incroyable mail qu'il a reçu il y a 3 jours du rédacteur en chef du National Enquirer qui dit détenir des photos compromettantes de lui, des selfies érotiques avec sa maîtresse, des photos nues. Il menace de les publier. Tout cela, explique-t-il, bien dans l'intérêt des actionnaires d'Amazon. Il faut dire que de son côté, le groupe Amai s'inquiète des enquêtes menées par le Washington Post sur sa proximité supposée avec l'Arabie Saoudite. Et on se souvient là du silence de Donald Trump au moment du meurtre de l'opposant saoudien Jamal Khashoggi, éditorialiste, et oui, rappelez-vous, au Washington Post, le journal de Jeff Bezos. Meurtre vraisemblablement commandité par les autorités saoudiennes. Alors dans sa tribune, publiée ce matin, Jeff Bezos explique qu'on lui demande de déclarer que les articles de l'Enquirer ne sont dictés par aucune considération politique. En échange de quoi, l'Enquirer abandonne l'idée de publier les photos compromettantes. Jeff Bezos parle de tentatives d'extorsion, de manipulation politique. Bref, il balance tout et il s'interroge si lui, l'homme le plus riche du monde, n'est pas capable de résister à une telle intimidation. Qui en serait capable? Une histoire pareille, celle-là, même Hollywood n'y aurait peut-être pas pensé.
Merci Claude Guibal. Bras de fer politique autour de l'aide humanitaire entre les deux présidents vénézuéliens. L'opposant vénézuélien Juan Guaido a demandé aux militaires de ne pas bloquer l'aide humanitaire envoyée au Venezuela, notamment par les États-Unis. Appel en vain, car le président Nicolas Maduro ne veut pas de cette aide. Conséquence, 3 remorques de camions bloquaient totalement le passage du pont qui relie les localités de Cúcuta en Colombie et d'Urena au Venezuela, sous la surveillance de militaires vénézuéliens. Or, si l'aide destinée au centre du pays, notamment Caracas, est bloquée à la frontière, en Colombie, en revanche, l'aide est bien distribuée pour les Vénézuéliens qui quittent le pays ou vont et viennent d'une rive à l'autre. Reportage à Cúcuta de notre envoyé spécial, Nathanaël Charbonnier.
À Cúcuta, l'aide humanitaire arrive, heureusement, car il faut savoir que tous les jours, le pont Bolivar qui sert de frontière voit passer des milliers de Vénézuéliens, comme l'explique le responsable immigration de la Colombie, Christian Kruger.
Chaque jour, il y a 40 000 Vénézuéliens qui franchissent ce pont pour rentrer en Colombie. De ces 40 000, il explique qu'il y en a 36 000 qui, le soir, retournent au Venezuela.
Et l'histoire se répète inlassablement. Les Vénézuéliens viennent trouver refuge en Colombie avec en général 2 objectifs, manger et se soigner. C'est le cas de Manuel, réfugié.
Ici, je peux un peu travailler et je peux donner de quoi manger à ma famille et trouver des médicaments, notamment pour mes enfants, parce qu'au Venezuela, il n'y en a plus. Il n'y a pas d'argent pour acheter ces médicaments-là.
Et la distribution des repas est assurée par différentes ONG, comme la Croix-Rouge, ou des associations plus religieuses, voire catholiques, comme la Divine Providence. José David Cagna, son responsable.
Au départ, c'était des paroissiens colombiens qui apportaient leur aide pour qu'ils puissent faire les repas. Depuis le 1er juillet 2018, c'est le programme alimentaire mondial qui les finance en fait, pour leur permettre de donner tous ces repas.
Et si l'aide arrive bien aux frontières du Venezuela, la bataille qui se joue, elle, concerne le centre du pays, où là, tout reste à faire.
Le président du patronat français est à Londres. Geoffroy Route-Bézieux a donné une conférence de presse ce matin sur le Brexit et selon lui, un accord entre Londres et Bruxelles est indispensable pour éviter le chaos annoncé. Dans l'actualité française, cette question, le pouvoir a-t-il un sexe? Question posée à l'occasion d'un colloque organisé à l'Assemblée nationale par Clémentine Autain et Libération. Un débat qui tombe à point nommé en plein procès autour de l'affaire Baupin. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
Vous vous trouvez pour nous en direct au Palais Bourbon. Les débats ont commencé ce matin.
Oui, c'est en évoquant la seconde affaire Baupin que la députée France Insoumise Clémentine Autain ouvre cette journée de débat sur les femmes en politique.
Parce que se trame dans une autre salle d'un tribunal un procès qui est en relation, à mon avis, avec notre sujet, qui est le procès des victimes de Denis Baupin. Et je le dis bien dans ce sens-là, parce qu'il se trouve que les faits étant prescrits, c'est Denis Baupin qui a intenté un procès à l'égard des femmes qui l'accusaient. Et ce procès qui a lieu aujourd'hui est en train de se retourner contre lui, et c'est heureux. Moi, j'avais soutenu les victimes de Denis Baupin depuis le début, donc j'ai une pensée chaleureuse vraiment à l'égard des victimes dont le procès est aujourd'hui une épreuve, et il faut bien s'en rendre compte.
David Cormand, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, est présent et il tient à préciser.
Souvent, quand on parle de ce sujet-là, on dit « mais il faut libérer la parole des femmes ». Moi, ma conviction, c'est que le problème dans cette affaire, c'est pas tant la parole des femmes que l'écoute des hommes. Parce que les femmes, elles parlent. Elles disent les choses. Elles disent pas de façon explicite « il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela », mais elles envoient des messages et elles disent des choses. Et on est dans une façon de fonctionner où, en fait, les hommes n'entendent pas. Ils n'entendent pas ce qui est exprimé.
Sandrine Rousseau, qui avait porté plainte contre Denis Baupin à l'époque et se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés, vient s'exprimer quelques instants après être sortie du tribunal.
Ce qui est très frappant aussi dans ce procès, c'est à quel point les femmes n'ont pas été mises en situation de solidarité. C'est-à-dire que toutes, au moment des faits, nous considérions comme rivales les unes des autres. Et ça, pour moi, c'est la grande victoire du patriarcat et la grande victoire de la domination masculine en politique.
Elle espère maintenant que cette affaire, qui avait provoqué avant MeToo une première prise de conscience, puisse enfin faire définitivement avancer le droit des femmes dans la société.
Merci à vous, Sophie Delpont. Merci également à Clément Vuillet, à la technique. Voici une étude qui vient apporter de l'eau au moulin des fédérations hospitalières publiques comme privées. Elles demandent à l'État de desserrer les taux des tarifs qui pèsent sur les établissements. Le cabinet de conseil Roland Berger a mené un long travail de synthèse pour conclure qu'il est plus urgent que jamais de relever les tarifs des actes hospitaliers, tarifs qui sont fixés par les pouvoirs publics. Patrick Bichler, senior partner en charge des questions de santé, estime que cette hausse est, je cite, « socialement nécessaire et techniquement possible ». Il l'a expliqué à Tara Schlegel.
Aujourd'hui, l'hôpital, à nouveau, fait l'objet d'une espèce de situation de ciseaux. On a d'un côté les coûts qui augmentent, et on le voit avec la reprise de l'inflation, donc qui se traduit par une pression sur les salaires, et des tarifs, donc leur rémunération, qui baissent. Et ceci dans un contexte où, contrairement à ce qui avait pu, pendant quelques années, alimenter la croissance de l'hôpital, qui était l'augmentation du nombre de patients ou l'augmentation du nombre de séjours, cette augmentation en volume ne s'observe plus. Ce qui est d'une certaine manière une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la population qui doit être soignée l'est, mais la grande question qui se pose, c'est est-ce qu'elle sera soignée avec la bonne quantité de moyens au sein des hôpitaux.
Vous dites que les tarifs pourraient augmenter rapidement finalement à l'hôpital, notamment parce que l'hôpital a été ces dernières années un peu le parent pauvre.
Sur la période de 2014 à 2018, l'hôpital a en moyenne perdu 0,9% par an. Pratiquement 1% de baisse tarifaire par an entre 2014 et 2018, quand dans le même temps, les médecins généralistes ont eu une revalorisation des tarifs de plus 2,1%, les médecins spécialistes de plus 1,7%, les sages-femmes de 2,1% et le transport sanitaire par véhicule sanitaire léger de 3,5% par an. Donc on a des secteurs qui bénéficient d'une hausse tarifaire sur les 4 dernières années et un autre secteur, donc l'hôpital, qui lui fait le constat d'une baisse inexorable.
Mais comment est-ce qu'on fait pour augmenter ces tarifs ?
C'est possible, il s'agit de la manière dont on répartit cette manne budgétaire. C'est une décision politique uniquement.
C'est par ce jeune couple que l'affaire Benalla, qui n'en finit pas, a débuté. Le 1er mai dernier, lors des manifestations à Paris, deux jeunes gens étaient physiquement malmenés par l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron. Les vidéos de ces violences avaient été dévoilées pendant l'été, déclenchant une véritable affaire d'État. Ce matin, c'est donc le jeune couple qui est jugé pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Georgios et Chloé, ce sont leurs prénoms, ont reconnu avoir lancé des objets sur les forces de l'ordre, place de la Contrescarpe. En France, l'année 2018 marque un net ralentissement dans les créations d'emplois, seulement 106 000 créations nettes dans le secteur privé. C'est trois fois moins qu'en 2017, selon une estimation provisoire de l'INSEE publiée aujourd'hui. quand l'accord de Paris a des conséquences très concrètes. Un tribunal australien vient de rejeter un projet de mine de charbon. Il a invoqué pour cela le réchauffement climatique. Bonjour Véronique Rebérotte.
Bonjour.
Cette décision de justice s'appuie sur l'impact local qu'aurait ce projet sur l'environnement, mais aussi sur les répercussions globales en termes de réchauffement climatique lié à l'utilisation du charbon.
Oui, ce rejet a été doublement motivé. Cette mine de charbon à ciel ouvert, prévue dans un paysage spectaculaire et culturel, aurait des impacts visuels, sociaux et en termes d'aménagement, estime le tribunal des affaires foncières et environnementales d'Australie. Mais en plus d'être prévue au mauvais endroit, cette mine intervient au mauvais moment, estiment les juges. Les juges ont estimé que les émissions de gaz à effet de serre produites par le charbon vont venir accroître encore les émissions mondiales, alors qu'il est nécessaire et urgent, comme le stipule l'accord de Paris sur le climat, accord ratifié par l'Australie, il est urgent de baisser mondialement ces émissions de gaz à effet de serre. Une décision de justice qui rend, de fait, l'accord de Paris contraignant, inédit, selon Arnaud Gossement, avocat spécialiste des questions environnementales.
C'est effectivement une décision de justice extrêmement importante, à mon avis une première, puisque ça serait la première fois qu'un juge se fonderait directement sur l'accord de Paris pour, quelque part, contraindre un État à le respecter. Ce qui voudrait dire que l'accord de Paris serait juridiquement contraignant, alors qu'on sait que c'était très polémique. On sait aussi que l'accord de Paris, les États-Unis ne souhaitaient pas qu'il soit juridiquement contraignant. Et les États-Unis, d'ailleurs, au dernier moment, pendant la COP qui s'est déroulée à Paris, avaient agi sur le texte pour être sûr qu'il n'était pas juridiquement contraignant et que le Congrès américain n'ait pas le ratifié. Donc oui, effectivement, c'est une décision extrêmement importante. Si l'accord de Paris est considéré par les juges comme juridiquement contraignant et invocable devant les tribunaux directement, la marche contre le changement climatique vient de franchir une étape très importante. On sait que les dirigeants australiens se déchirent sur le fait de rester ou pas parmi les pays signataires de l'accord de Paris. Donc ça tombe dans un pays qui est en proie à une très grave crise écologique, qui a une industrie extrêmement polluante. Le fait que dans ce pays-là, effectivement, un projet mini soit bloqué au nom du climat et surtout de l'accord de Paris, c'est effectivement une étape très importante.
Alors une décision qui intervient aussi en Australie à un moment où dans le sud du pays, eh bien, il vient de connaître une vague de chaleur sans précédent, étouffante et confrontée aussi en ce moment à des pluies. Une mousson de grande ampleur, il est tombé par endroits l'équivalent d'une année de pluviométrie en quelques jours, les dérèglements climatiques sont une réalité en Australie.
Merci à vous Véronique Rebérotte. Midi passé de 48 minutes sur France Culture, notre invité Europe aujourd'hui est Piotr Moszynski, correspondant à Paris d'un des plus grands quotidiens polonais, Gazeta Wyborcza. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Hier se tenait le sommet du groupe de Visegrad à Bratislava. Il a réuni la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, quatre pays de l'Union européenne qui, entre autres, s'opposent catégoriquement à toute mesure d'accueil des migrants. Et cette position, hier, elle n'a pas évolué.
Non, cette position n'a pas changé, effectivement. Une simple réunion de premiers ministres ne peut certainement pas suffire à gommer les divergences profondément enracinées dans l'histoire de la région et partiellement aussi dans l'idéologie nationaliste qui semble prévaloir dans les cercles dirigeants du groupe de Visegrad et surtout d'ailleurs dans leurs électorats. Certes, le rejet des migrants est condamnable sur le plan moral et politique, donc sans vouloir justifier ce choix, j'essaie simplement de le comprendre. Il ne faut pas oublier que les quatre pays sortent d'une longue, longue période de souveraineté limitée ou carrément perdue. Par exemple, sur plus de 200 dernières années de l'histoire de la Pologne, précédant la chute du communisme, elle n'avait connu que 20 années d'une réelle indépendance. Une grande partie de la population a vite compris que la meilleure façon de défendre cette indépendance, c'était d'avoir beaucoup d'amis et ils ont soutenu l'adhésion à l'Union européenne. Mais les autres y ont vu une limitation de la souveraineté fraîchement recouvrée, inacceptable pour ceux qui, à leurs yeux, étaient les vrais patriotes. C'est un terroir idéal, vous imaginez bien, pour cultiver les idées nationalistes. Et c'est ce qu'on fait avec succès le parti d'Orban ou de Kaczynski.
Question d'Annabelle Grelier.
Piotr Moszynski, alors les gouvernements des pays du groupe de Visegrad multiplient depuis 2 ans les points de désaccord avec la gouvernance de l'Union européenne. La Hongrie et la Pologne, par exemple, font l'objet d'une procédure exceptionnelle à des instances à Bruxelles pour atteinte à l'état de droit et aux valeurs de l'Union européenne. Faut-il, pensez-vous aujourd'hui, traiter le groupe de Visegrad comme des pays à part ?
Eh bien, ce sont les pays à l'histoire très différente de la partie occidentale du continent. Cette histoire détermine en grande partie leur regard sur l'Europe et sur le monde. Deux générations ont vécu sous le joug soviétique avec le sentiment que les États-Unis et non pas l'Europe étaient la seule puissance capable de les défendre. D'où la peur et la méfiance qui persistent par rapport aux Russes et la confiance et l'espoir, parfois très exagérés, accordés aux Américains. Après la Seconde Guerre mondiale, les quatre peuples de Visegrad ont été séparés de l'Europe occidentale et des grands mouvements migratoires que celle-ci avait subis. Ils sont donc restés relativement homogènes ethniquement pendant presque un demi-siècle et n'ont eu que très peu d'expérience d'accueil des étrangers. Mmh. Beaucoup d'habitants ont donc peur de ces inconnus. Par ailleurs, ils ont vécu sous les régimes dictatoriaux. Une partie de la population s'y est bien adaptée et considère toujours qu'il vaut mieux avoir un homme fort au pouvoir que des démocrates mous et au discours compliqué.
Mais alors, est-ce que vous pensez, Piotr Moczynski, que ce sont les prémices d'une Europe à plusieurs vitesses, hein, comme le propose Emmanuel Macron ? Et puis, quel rôle ces pays pourraient-ils jouer dans un tel contexte ?
Eh bien, je pense que ces pays cherchent toujours le rôle exact qu'ils pourraient jouer au sein de l'Union européenne. Ils ont pas mal réussi économiquement depuis leur adhésion, en grande partie grâce aux aides européennes, évidemment. Mais politiquement, ils restent à la marge de l'Union. La Pologne semblait réussir à jouer le rôle de leader régional et être capable de jouer dans la cour des grands pays européens. Mais l'arrivée de Jarosław Kaczyński au pouvoir, avec son cortège d'europhobes, de nationalistes et d'ultra-catholiques, a compromis toutes les chances du pays en la matière. Parmi les quatre pays de Visegrad, seule la Slovaquie fait déjà partie de la zone euro. Si les autres la joignaient aussi, ils pourraient sans doute jouer un rôle politique plus considérable. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour le moment, ils sont pratiquement condamnés à regarder passivement les autres avancer dans l'intégration européenne et essayer de créer des contre-alliances populistes avec, par exemple, l'actuelle équipe au pouvoir en Italie.
Alors, la chancelière allemande Angela Merkel était hier présente à ce sommet d'Europe de l'Est. L'Allemagne, on le sait, est très interdépendante économiquement avec ces pays, notamment l'industrie automobile. Tous les géants allemands du secteur y ont établi d'importants sites de production. Ils travaillent avec de nombreux sous-traitants. Hier, bien sûr, Angela Merkel, elle a joué l'apaisement. Mais n'y a-t-il pas un risque de rupture avec le bloc de l'Est ? Et puis, comment se positionne l'opinion publique vis-à-vis de l'Europe et de ses futures élections du mois de mai ?
Eh bien, voyez-vous, j'ai l'impression que l'opinion publique constitue le plus grand espoir de garder le cap sur l'Europe. Car si l'on en croit les sondages, le soutien à l'appartenance à l'Union européenne reste toujours considérable dans les quatre pays de Visegrad. Un Pole Exit ou un Czech Exit reste donc difficilement imaginable. Mais sur le plan politique, les pouvoirs en place feront certainement tout pour utiliser les élections européennes à créer un fort groupe populiste et souverainiste au Parlement européen afin de gagner en influence justement au niveau européen. S'ils réussissent, on pourra s'attendre à une radicalisation des positions également au niveau du groupe de Visegrad, qui va sans doute évoquer une légitimité démocratique de sa position, légitimité issue des urnes. Cela dit, il y a aussi des divisions internes au sein du groupe. La République tchèque et la Slovaquie sont beaucoup plus favorables à l'approfondissement de la collaboration politique avec l'Allemagne et la France que la Hongrie et la Pologne.
Merci beaucoup à vous, Piotr Moczynski, d'avoir accepté cette invitation dans le journal de France Culture. Je vous parlais dans ce journal de l'affaire Benalla. Eh bien, sachez que 2 mois avec sursis ont été requis contre le couple de la contrescarpe pour violence contre des policiers. La nouvelle vient de tomber à l'instant. Cet après-midi, temps perturbé sur la moitié nord, ensoleillé sur la moitié sud. Ça va souffler sur les côtes. Température douce pour la saison. 7 degrés à Clermont-Ferrand, 8 à Paris, 12 à Ajaccio, 15 à Biarritz. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. 17h, grand reportage. Cette semaine, partie pirate, immersion dans les cyberpartis européens. Un reportage d'Anne Fauquemberg réalisé par Annie Brault. 18h, le journal avec Stanislas Vazak.